Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Bamako a convoqué ce mardi l'ambassadeur de France après une vive protestation contre les propos jugés regrettables, inamicaux et désobligeants du président Emmanuel Macron à l'encontre de la junte militaire au pouvoir. Ce dernier a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien où la France est en train de réduire son dispositif militaire. Le ministre a invité les autorités françaises à la retenue en évitant des jugements de valeur, a commenté le ministère malien des Affaires étrangères dans un communiqué. D'autre part, en Algérie, Karim Tabou, une figure du mouvement de contestation Irak, a vivement critiqué hier les propos du président français qui a questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Monsieur Macron a déclenché la colère d'Alger après des propos rapportés samedi par le journal français Le Monde, accusant le système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle en servant à son peuple une histoire officielle qui ne s'appuie pas sur des vérités. En République démocratique du Congo, des témoins ont confirmé hier au procès du meurtre de deux experts des Nations Unies en mars 2017 dans le centre du pays les déclarations du journaliste congolais Sosten Kambidi, qui reste toutefois en détention malgré les protestations de son avocat. À l'audience devant le tribunal militaire de Kananga, le vidéaste Israël Ntumba, l'avocat Prosper Kamalou et Roger Bouchabou, un habitant de la localité de Bonkondé où avaient été tués l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, ont reconnu avoir été en possession de la vidéo de leur exécution avant Sosten Kambidi, a indiqué son avocat Maître Dominique Kambala. Des centaines de Libériennes ont manifesté ce mardi à Monrovia contre une série de crimes rituels présumés dans le pays, suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux au Libéria évoquant la découverte de corps amputés de parties qui serviraient à des fins occultes. La police libérienne, qui a démenti la plupart des rumeurs, a arrêté un membre de l'opposition accusé de les amplifier. La responsable de la gestion de l'épidémie de COVID-19 à l'OMS, Maria Van Kerkhove, a souligné hier que le nouveau coronavirus n'était toujours pas sous contrôle, nombreux étant ceux qui croient à tort que la pandémie est presque vaincue. Selon elle, 3,1 millions de nouveaux cas de contamination et 54 000 décès ont été rapportés la semaine dernière dans le monde, les vrais chiffres étant probablement bien supérieurs. La croissance économique mondiale sera légèrement plus faible qu'attendue cette année, a prévenu mardi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, inquiète du fossé grandissant entre les pays riches qui profitent globalement de la reprise et les pays pauvres affectés par le manque de vaccins et les poussées inflationnistes. Un jury californien a condamné l'entreprise automobile Tesla à payer à un ex-employé noir 137 millions de dollars, oui, 137 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir fermé les yeux sur le racisme que subissait l'homme dans une usine du groupe, un jugement qui devrait secouer les entreprises américaines selon son avocat. Par ailleurs, un Américain a signé en justice une voyante qui affirmait en échange de 5 100 $ pouvoir lever une malédiction amoureuse lancée contre lui en procédant à un exorcisme, mais n'a produit aucun résultat probant. C'est sur Internet que Mauro Restrepo avait trouvé Sophia Adams, médium spécialiste des affaires de cœur, pour l'aider à se sortir de la mauvaise passe qu'elle traversait avec son épouse. Selon la voyante, qui avait reçu un acompte de 1 000 $, le monsieur était victime d'une sorcière engagée par son ex-petite amie. La suite de nos informations, la réarticulation du dispositif militaire au Mali se fait en étroite collaboration avec l'armée malienne, a assuré le général Laurent Michon, commandant de la force anti-djihadiste française au Sahel, après avoir été reçu mardi par le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara. Les détails avec Nani Talani.
Les entretiens entre les délégations françaises et maliennes se sont déroulés dans une ambiance qualifiée de bonne des deux côtés. Nous avons commencé à aider la relève des FAMA à Tessalit et depuis un mois, il y a un nouveau contingent FAMA à Tessalit. Cette coordination associe aussi la force de l'ONU, la MINUSMA, a dit le général Laurent Michon. Il a souligné qu'à Kidal, par exemple, les positions françaises se trouvaient dans le camp de la MINUSMA. Si des localités comme Tessalit étaient attaquées par les djihadistes, si la menace était forte, le général Michon a assuré qu'il y a la possibilité d'envoyer des chasseurs ou un appui aérien pour réagir et appuyer la MINUSMA et les FAMA. Le sujet du groupe paramilitaire russe Wagner, source de sévères crispations entre Paris et Bamako, n'a pas été abordé. Les tensions récentes entre les deux capitales se sont amplifiées le 25 septembre lorsque le premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a accusé la France d'abandon en plein vol pour justifier le possible appel par Bamako à la société privée russe de mercenaires Wagner. Des propos que le président français Emmanuel Macron avait qualifiés d'inadmissibles, de honte.
L'aide militaire régionale au Mozambique, dont le nord fait face à des violences djihadistes, va se poursuivre. C'est ce qu'ont annoncé hier les pays d'Afrique australe lors d'un sommet à Pretoria. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous allons tenir la promesse que nous avons faite et aider notre frère, le Mozambique, a déclaré le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Ce soutien militaire devait initialement prendre fin le 15 octobre. La communauté de développement d'Afrique australe a envoyé en juillet-août des soldats en soutien à l'armée mozambicaine. Cette mission a été approuvée pour une période initiale de 3 mois. D'abord réticent à toute intervention militaire étrangère, le président mozambicain Filipe Nyusi a salué en juillet l'envoi par l'Afrique du Sud de 1500 soldats. Le conflit dans la province riche en gaz du Cabo Delgado, frontalière avec la Tanzanie, a commencé en octobre 2017. Les violences ont depuis fait plus de 3300 morts, dont une majorité de civils selon l'ONG ACLED. Plus de 800 000 personnes ont été forcées à quitter leur foyer selon l'ONU. Les forces gouvernementales ont secouru des enfants enlevés par des djihadistes qui les avaient enrôlés comme combattants, a rappelé l'UNICEF. La semaine dernière, l'ONG Human Rights Watch a évoqué des centaines d'enfants.
Ici aux États-Unis, la lanceuse d'alerte qui a livré ce mardi un témoignage accablant contre Facebook devant le Congrès américain a déclaré vouloir sauver ce groupe. Son témoignage, qui accuse Facebook d'être dangereux au lieu d'être bienfaisant, est intervenu au lendemain d'une coupure de près de 5 heures qui a coûté au groupe 10 milliards de dollars à la bourse, dit Isango.
Ingénieur spécialiste des algorithmes, Francesca Haugen, 37 ans, a révélé entre autres que Facebook privilégie ses intérêts plutôt que la sécurité des personnes. Ancienne membre d'une équipe dédiée à l'intégrité civique au sein du groupe de Mark Zuckerberg, elle a expliqué que pour gagner de l'argent grâce aux publicités, les réseaux sociaux font en sorte que ses adhérents restent sur la plateforme le plus longtemps possible. Les contenus haineux et sources des discordes sont souvent le plus à même de retenir l'attention. Facebook a bien mis en place des équipes pour limiter la désinformation au moment des élections et modifier ses algorithmes pour réduire la diffusion des fausses informations. Mais son équipe chargée d'analyser les risques que pouvaient poser certains utilisateurs et certains contenus à l'approche d'élections a été démantelée peu après le scrutin présidentiel américain de novembre 2020, rapporte Haugen. À peine 2 mois plus tard, le 6 janvier, les congrès américains étaient envahis par des émeutiers. Frances Haugen dit alors avoir vraiment commencé à mettre en doute la volonté de Facebook de mettre suffisamment de moyens sur la table pour protéger ses membres. Facebook, conclut-elle, préfère privilégier ses profits.
La Minute Écho, John Linden.
Le Fonds monétaire international devrait considérer une nouvelle négociation avec le Congo en vue d'une facilité élargie de crédit. Une première depuis 2 ans pour le fonds, selon le magazine Jeune Afrique, qui cite un compte rendu daté du 28 septembre 2021. Le journal ajoute qu'à ce jour, seulement 10% de l'accord de crédit approuvé en 2019 a été déboursé. Cet accord a expiré en avril 2021. En Côte d'Ivoire, le résultat net après impôt de la Société africaine de plantation DVA a fait un grand bond de 366% au premier semestre 2021 comparé à la même période de 2020. Ces résultats, selon Financial Afrique, s'établissent en peu plus de 8,56 milliards de francs CFA contre 1,728 milliards de francs CFA au premier semestre 2020. Un défaut de paiement des États-Unis, faute d'accord au Congrès pour relever le plafond de la dette avant la date butoir du 18 octobre, pourrait provoquer une nouvelle récession. C'est la sonnette d'alarme tirée mardi par la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen. Fixé à un peu plus de 28 000 milliards de dollars, le Trésor estime qu'il sera atteint le 18 octobre. Le pays pourrait alors être en défaut de paiement si ce plafond n'est pas relevé, faute du vote des Républicains.
Merci John. À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Les matchs des 3e et 4e journées des qualifications au Mondial 2022. Zone Afrique débute aujourd'hui. Deux rencontres au programme. Le Maroc reçoit la Guinée-Bissau et le Soudan joue la Guinée. Demain, jeudi et dimanche, la République démocratique du Congo fera finalement sans Gaël Kakuta et Meshak Elia lors de sa double confrontation face à Madagascar. Gaël Kakuta est blessé et Meshak Elia a été suspendu après un différend avec son club, le tout-puissant Mazembe. Pire, Yannick Bolasie a aussi déclaré forfait. Joël Kayamba de Victoria Plzeň en République tchèque et André Boukia d'Aruca au Portugal ont été appelés en renfort. Le Kenya a confirmé sa candidature à l'organisation des championnats du monde d'athlétisme de 2025, a déclaré Jackson Toué, président d'Athletic Kenya. L'Afrique n'a jamais accueilli l'épreuve reine de l'athlétisme mondial. Nous avons organisé 2 championnats du monde junior très réussis au stade Kasarani en 2017 et en août 2021, où un certain nombre de records du monde et de records personnels ont été réalisés, a ajouté M. Toué. La candidature de Nairobi doit faire face à une série de rivaux de premier plan, dont Tokyo, qui a organisé les Jeux olympiques en juillet. Ici aux États-Unis, l'ex-footballeuse Mana Shim, qui accuse avec une autre joueuse son ancien entraîneur des Portland Thorns, d'abus sexuel, a aussi accusé son ancien club de l'avoir forcé à se taire. Mana Shim et Sinead Farrelly ont mis en cause l'entraîneur Paul Riley, 58 ans, limogé du club en 2015. Sinead a accusé Riley de l'avoir soumis à des rapports sexuels forcés quelques années plus tôt lorsqu'il était à la tête du Philadelphia Independence. Riley est devenu l'entraîneur du North Carolina Courage après avoir été licencié par les Thorns. Les Courage l'ont licencié la semaine dernière. Vendredi, la FIFA a annoncé l'ouverture d'une enquête. La commissaire de la Ligue nord-américaine de football féminin, mise en cause pour son inaction dans cette affaire, a fini par démissionner. Basketball. L'Espagnol Pau Gasol a annoncé à Barcelone qu'il met à 41 ans un terme à sa carrière de joueur professionnel. Le géant catalan de 2,16 m a presque tout gagné en Espagne sous les couleurs du FC Barcelone, puis en NBA et même sur le plan international où il a bousculé avec les Ninos, les invincibles américains lors des Jeux olympiques de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres, sans jamais réussir à glaner l'or. Néanmoins, l'aîné des frères Gasol a mené l'Espagne vers un sacre mondial, 2 médailles d'argent olympiques, 3 titres européens et a effectué un parcours remarquable dans le championnat NBA qu'il a remporté 2 fois en 2009 et 2010 avec les Los Angeles Lakers de Kobe Bryant.
Merci Yakuba. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, les 93 membres du Conseil national de transition nommés par le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby, le 24 septembre dernier, ont été installés hier mardi à N'Djamena dans leurs fonctions dans les locaux du Palais de la démocratie. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, a été élu par acclamation à la tête du CNT. Choix diversement apprécié par les citoyens tchadiens, nous dit notre correspondant sur place, André Kotmadjingar.
Je cherche dans ma mémoire un exemple d'une Assemblée nationale nommée par un exécutif et qui est indépendante. Il n'y en a pas. Et donc, ça ressemble plus à des fables.
Docteur Succès Masra, président du Parti Les Transformateurs et membre de la coordination des actions citoyennes Wakitama, il remet déjà en cause l'indépendance des membres de ce Parlement provisoire.
Nous aurions aimé ne pas avoir raison, mais l'histoire nous donne donc raison sur la trajectoire qui est en train d'être prise aujourd'hui dans cette transition unilatérale par un groupe de 15 militaires et qui, paradoxalement même, c'est cette personne qui aurait refusé le pouvoir qu'il avait de la part de la Constitution et il a préféré donc être nommé par ceux qui sont venus en jetant cette Constitution. En fait, on aurait cru qu'on était dans un film, mais en réalité, c'est la réalité du Tchad d'aujourd'hui. Et donc, la seule chose qu'il faut attendre, c'est la dissolution de cette fameuse Assemblée qui n'est même pas représentative.
Le président de l'Union des jeunes nationalistes, Loua Doumgar Domte Blanchard, estime pour sa part que toutes les composantes des forces vives sont représentées. Il salue le choix porté sur Kabadi pour diriger le CNT.
La nouvelle équipe du CNT qui vient de se mettre en place renforce en fait le processus de notre démocratie. Si ces hommes et femmes ont su porter à nouveau leur choix sur la personnalité du docteur Haroun Kabadi, c'est une action très positive. Étant donné que dans notre jargon, on dit que c'est lui qui est assis bien avant, il sait comment pouvoir orienter celui qui vient d'arriver parce qu'il maîtrise le terrain.
D'autres citoyens estiment que la mise en place du CNT est contre la volonté du peuple et refuse la désignation par acclamation sans surprise de Haroun Kabadi comme président du CNT.
C'est le seul Kabadi là qu'on lui a proposé d'être président de la République. Il a refusé. Par rapport à sa santé, tout ça, l'argument qu'il a avancé. Et maintenant, pour être dans CNT, secrétaire général de MPS, là, il n'y a pas la maladie. Je clôt comme ça.
La CNT doit revoir son organisation, sinon ça ne marche pas. Le régime est toujours le régime MPS. Nous voulons le changement.
Le seul Kabadi là, aujourd'hui, on le nomme comme quoi? Président de CNT encore. Il n'y a pas un autre Tchadien que Kabadi. Moi, je ne suis pas d'accord.
Maître Théophile Bongourou, un jeune opposant, est conscient du rôle qu'il va jouer au sein de ce Parlement provisoire.
Nous entendons jouer notre rôle en soulevant dans l'hémicycle qui est une tribune pour nous aussi. Les aspects qui nous tiennent à cœur, nous avons pris sur nous le risque. Mais si nous sentons que les gens veulent nous utiliser comme un faire-valoir pour asseoir une politique qu'ils ont d'avance ficelée, il est de notre rôle de pouvoir relever ça d'abord pour le dénoncer, première étape. Deuxièmement, suspendre notre participation. Troisièmement, si ça change pas, on se retire une fois.
Le CNT est le troisième et dernier organe de transition à être mis en place après le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition. Le mandat du Conseil national de transition prend fin dès l'installation du Parlement élu. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, les enseignants demandent une meilleure protection contre les attaques séparatistes et terroristes. Ils disent que trop de leurs collègues ont été contraints de fuir les zones de l'Ouest au service des rebelles anglophones et dans le Nord, le long de la frontière avec le Nigeria, une zone où les terroristes de Boko Haram sont très présents. Un reportage du correspondant de la VOA à Yaoundé, Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Abdourahman Dia.
La chanson « Oh Teachers » de la chanteuse camerounaise Antiklo a retenti mardi dans la cour du conseil municipal de Yaoundé, remplie par environ 200 enseignants. Les paroles de Antiklo expliquent comment les enseignants doivent être respectés et protégés, car ce sont eux qui sont chargés de façonner les jeunes esprits pour l'avenir et le développement du Cameroun. La plupart des enseignants présents à la manifestation organisée pour marquer la journée mondiale des enseignants déclarée par l'ONU disent avoir fui l'insurrection de Boko Haram dans le nord ou les combats entre les troupes gouvernementales et les séparatistes anglophones dans l'ouest. Peter Tarr, 52 ans, porte-parole des enseignants, affirme que ses collègues travaillant dans les zones de conflit du Cameroun endurent beaucoup de souffrances.
Les enseignants sont persécutés chaque jour, chaque heure. Certains ont été brutalement tués, d'autres brutalement privés de certaines parties de leur corps, ont été forcés de quitter leur région pour devenir des déplacés internes. Certains sont désormais au chômage. Mon cœur saigne pour ces professeurs. Je prie pour que la paix revienne.
Peter Tarr a expliqué qu'il s'était échappé d'une école publique de la ville de Nope après avoir été kidnappé par des combattants séparatistes. La manifestation était organisée par l'Association camerounaise des enseignants en crise. Selon Peter, les enseignants veulent attirer l'attention de la communauté internationale sur leurs souffrances. Plus de 40 enseignants ont été tués au Cameroun depuis 2017. Plus de 300 autres ont été enlevés puis libérés après que leurs familles ont payé une rançon. Des centaines d'écoles dans le nord et l'ouest ont été détruites ou fermées. Valentine Tamé est président de l'Association des enseignants du Cameroun. Selon lui, les enseignants n'ont parfois pas d'autre choix que de fuir la violence.
Cela devient vraiment un spectacle désolant de voir des enseignants courir avec leurs familles. Certains perdre la vie, d'autres fuir vers des zones où ils ne peuvent rien faire pour subvenir à leurs besoins. Nous demandons à tous ceux qui sont engagés dans une sorte de guerre de comprendre que les enseignants et le milieu dans lequel ils opèrent sont sacro-saints et les combattants doivent comprendre que sans enseignants, la communauté se prépare à une sorte d'âge des ténèbres.
Le ministre camerounais de l'éducation de base, Laurent-Serge Etoundingoa, a assuré que l'armée protège les écoles, les enseignants et les élèves dans les régions où sévit une crise sécuritaire. Il encourage les enseignants ayant fui l'insécurité à retourner dans des zones relativement paisibles pour le bien des enfants.
Nous venons de recruter 5000 enseignants pour accompagner ceux qui sont déjà sur le terrain. Quand vous allez enseigner dans une région du Cameroun, vous devez savoir que c'est votre pays. Les enfants qui sont là sont tous nos fils et nos filles. Nous devons donc faire tout le nécessaire pour qu'ils aient une éducation sûre, car ils sont les acteurs qui continueront demain à construire le Cameroun.
Les Nations Unies ont déclaré le 5 octobre Journée mondiale des enseignants en 1994 pour honorer les enseignants pour le rôle important qu'ils jouent dans le développement économique et d'autres secteurs à travers l'éducation.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'historien et philosophe Achille Mbembe, spécialiste de la décolonisation, a été chargé par le président français Emmanuel Macron de préparer le sommet Afrique-France qui se tient ce vendredi à Montpellier. L'intellectuel camerounais vient de remettre à M. Macron un rapport de 150 pages qui formule notamment 13 propositions pour la refondation des relations entre la France et le continent. Joint par Claire Morin-Gibourg, Achille Mbembe revient sur ce qu'il qualifie de moment historique dans les rapports France-Afrique.
Ce qui est ressorti des débats dans les pays africains en amont de ce sommet, c'est la grande aspiration de la jeune génération à la mobilité, à la démocratie et à la dignité. Et sur la base de ce constat tout à fait simple, mais absolument crucial, on a élaboré une série de propositions qui ont été soumises au président de la République.
Il est bien sûr difficile de résumer en quelques minutes ce rapport qui fait 150 pages, mais pouvez-vous nous citer quelques-unes de ces propositions que vous avez faites au président Macron ?
Disons, il y en a 13, on ne va pas les lister toutes. La première proposition consiste à créer un fonds d'innovation pour la démocratie. La deuxième grande proposition vise à bâtir à Paris même une maison des mondes africains et des diasporas. Il y en a 11 autres qui s'attardent à régler les grandes questions qui sont ressorties des débats. Mais je vous cite ces deux-là parce que ce sont les deux propositions phares qui constitueront un peu l'essentiel des discussions dans les jours qui viennent.
Comment vous vivez ce moment? Est-ce que vous attendiez un jour à pouvoir faire ce genre de proposition?
Non, franchement, non. Moi, j'étais un universitaire. Je m'occupais de choses, au fond, théoriques. Lorsque le président Macron est venu me demander de l'accompagner dans cet exercice, j'ai tout de suite su que c'était une opportunité historique pour faire entendre la voix, les voix de l'Afrique dans ce forum, qui est un forum important. Les relations entre la France et l'Afrique sont à un point de bifurcation. Elles ont besoin de clarification. Et j'ai cru, disons, voir dans l'attitude du président Macron une disponibilité justement à engager ce dialogue.
Et qu'attendez-vous de ce sommet?
Eh bien, ce sommet qui arrive, c'est un sommet qui, j'espère qu'il marquera une étape. C'est pas la fin, ce n'est que le début. Tout dépendra effectivement de l'après-sommet, de ce que l'on va faire. J'espère qu'on tracera, mettra en place un processus visant à l'application, l'opérationnalisation des 13 propositions préliminaires que nous avons mises sur la table et qui permettent, si elles étaient effectivement mises en œuvre, de débloquer la situation.
C'était l'écrivain et spécialiste de la décolonisation Achille Mbembe. Ici aux États-Unis, le président Joe Biden entreprend cette semaine la promotion de son programme national. Il y a des désaccords au sein du Parti démocrate sur deux projets de loi. Un plan d'infrastructure de 1200 milliards de dollars et un projet de loi de dépenses sociales de 3500 milliards de dollars. Reportage de Michel Quinn de la VOA, récit de Yacouba Ouédraogo.
Le président Biden est sous pression cette semaine pour réunir les deux ailes de son parti démocrate sur les deux projets de loi de dépenses massives qui sont liés et essentiels à son programme national.
Je vous dis que nous allons y arriver. Peu importe quand, peu importe que ce soit dans 6 minutes, 6 jours ou 6 semaines, nous allons le faire.
Avec un soutien bipartite, le projet de loi d'infrastructure de 1200 milliards de dollars pour les routes, les ponts et les autoroutes a été adopté par le Sénat. Mais à la Chambre des représentants, les progressistes du Parti démocrate disent qu'ils n'approuveront pas ce projet de loi sur les infrastructures tant que leur parti n'a pas conclu un accord sur le plus grand programme de dépenses sociales de 3500 milliards de dollars. Ce programme comprend de l'argent pour des initiatives telles que l'environnement, l'éducation et la garde d'enfants. La présidente Nancy Pelosi a retardé le vote à la Chambre sur le projet de loi sur les infrastructures, provoquant la colère de certains modérés. Dans un communiqué, la sénatrice Kirsten Sinema, une démocrate modérée de l'Arizona, a qualifié le retard d'inexcusable et de coup de force pour tenir en otage le projet de loi sur les infrastructures. Les républicains s'opposent à ce vaste plan de dépenses. Le sénateur John Barrasso, un républicain du Wyoming, l'a qualifié dans l'émission Fox News Sundays de grand projet de loi téméraire sur le socialisme du gouvernement. Les démocrates, avec une faible marge à la Chambre et un Sénat également divisé, où la vice-présidente Kamala Harris est nécessaire pour faire pencher la balance en cas d'égalité, doivent unir leur parti s'ils veulent faire adopter le plus gros paquet. Le sénateur Bernie Sanders est un indépendant du Vermont.
Ces deux projets de loi avancent en tandem. Nous devons les passer tous les deux.
La Chambre est hors session pour les deux prochaines semaines. Le président Biden aurait déclaré aux démocrates que le coût du projet de loi devrait probablement baisser à 2100 milliards de dollars. Et certains démocrates progressistes affirment qu'un compromis potentiel pourrait inclure le raccourcissement de la période de financement du projet de loi.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Georges Léonard Sagnou à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.